à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, je vais essayer de témoigner un petit peu, mais je serai très maladroite et vous pouvez m'interrompre et poser des questions comme vous voulez. Déjà, ça me touche de commencer par une prière à Marie. Parce que voilà, j'ai appris il n'y a pas longtemps en fait, que quand je suis née, dans la maternité, c'était une grossesse difficile et l'accouchement difficile. Et il y a un prêtre qui est venu pour demander si pour bénir en fait les bébés. Et puis ma mère a bien voulu, voilà. Et même l'avait jamais dit. Et là, l'année dernière, elle m'a remis en fait la prière du prêtre qui m'avait consacré à Marie et fait une prière pour les vocations, en fait. Donc Marie. Est importante. Et donc moi, j'ai grandi avec une très grande soif d'absolu, soif de Dieu, et vraiment une quête de vérité et de liberté, cherchant quel est le sens de la vie, comment est-ce que je peux vraiment me sentir libre dans les choix que je fais, où est la vérité. Et ça m'a poussée à faire des choix, à partir loin, à partir à l'autre bout du monde. Puis finalement, je suis atterrie ici à Strasbourg, donc il y a 5 ans, au groupe de prière, ici, au groupe de prière Saint-Damien. Et c'était la première fois que je commençais à aller dans un groupe de prière avec des jeunes. Chez moi, je viens plus du sud, vers Montpellier, et il n'y avait pas de jeunes. Je ne connaissais pas de jeunes en église. Donc c'était assez nouveau. Et ça me touche beaucoup d'être là, parce que c'est vrai que je me rappelle très bien la première fois que je suis venue dans cette église, mais je suis vraiment, j'ai rien à faire là, c'est pas ma place. Enfin, c'est sympa, enfin, c'est bien, ils prient, mais moi c'est pas ma place, quoi. Et ce qui m'a fait rester, c'est qu'en fait là il y a une statue de Sainte Anne, et c'est ma sainte patronne, et je me suis dit bon, c'est rare que je trouve une statue, et du coup je suis restée en fait à la première fois que je suis venue, parce qu'il y avait une statue d'elle. Puis après, je suis revenue. Et c'est comme ça, c'est le Seigneur qui agit et qui, petit à petit, en fait, j'ai découvert un peu la vie de prière. J'ai commencé à aller à la messe. Et j'ai commencé aussi à aller à Tibériade, la communauté de Tibériade. Et là, c'était aussi la première fois que j'y étais toute seule. C'était à Pâques. Et vraiment, ça a été vraiment des moments forts pour moi de vivre la foi avec des jeunes, de vivre, de découvrir une église vivante, des frères et des sœurs jeunes. Et j'avais sans cesse dans mon cœur une question, une recherche, je veux dire, mais il est où le bonheur? C'est quoi le sens de l'existence? Et vraiment cette soif, mais immense, de vivre. Et du coup, j'ai fait... une retraite avec les sœurs de Tibériade. Et c'était un temps d'itinérance qu'on a fait entre Rome et Assise en mendiant. Et puis là, ça a été une évidence, en fait, à Assise. C'était vraiment... En fait, il y a une sœur, donc je ne sais pas qui était déjà à Tibériade ou connaît, mais il y a sœur Agnès qui témoignait, qui a parlé simplement de son appel. Et là, c'était... Je commençais à pleurer, et à dire, mais c'est terrible en fait, parce que ça a l'air d'être magnifique, comme un appel à une vie religieuse, mais c'est impossible en fait à vivre pour moi réellement. Et j'ai senti en même temps une très grande joie et une très grande douleur à ce moment-là. Et je ne savais pas, je pleurais juste, et c'était terrible. Et en même temps, je savais que j'étais libre de choisir. J'étais libre de choisir... de suivre le Seigneur de cette manière-là, dans la vie consacrée, ou de m'en détourner. Et donc ça a été une première étape. Donc c'est pour ça que la communauté de Tibériade a été vraiment importante pour moi. Et après, j'ai continué donc pendant 2 ans à venir au groupe Saint-Damien, à aller à Tibériade. Et finalement, les chemins ont fait que j'ai été à l'école Jeunesse Lumière. Je ne sais pas trop comment, c'est bizarre de raconter, je ne sais pas trop comment parler, mais et du coup, bah, à l'école, j'étais à l'école Jeunesse Lumière. Toujours avec cette soif, en fait, de chercher peut-être que Dieu m'appelait à quelque chose, mais comment? Et puis, je me sentais tellement incapable, en fait, de faire quoi que ce soit. Et j'étais aussi, quand j'ai fait toutes mes études, j'étudiais les arts du spectacle. Donc, j'étais amie vraiment avec beaucoup d'artistes, tout le temps, facilement la fête, le n'importe quoi, enfin... Enfin, c'était mon quotidien et du coup j'allais au groupe de prière Saint-Damien, mais en même temps c'était pas forcément évident de faire des choix, de suivre, de dire je veux suivre Dieu, mais en même temps je le suis pas dans ma vie quotidienne. J'allais voir tellement de spectacles, et des spectacles vraiment qui nous font pas du bien, enfin, mais c'était normal, c'était la normalité. Et du coup, quand j'ai fini ma licence et que j'ai fait ce choix, mais assez difficile pour moi, un peu combattu, d'aller à Jeunesse Lumière, c'était voilà, une étape, mais je ne savais pas expliquer pourquoi j'allais là-bas, et puis je n'avais pas non plus forcément très envie d'y aller, en fait, enfin, c'était comme ça, et ça a été vraiment une grande année de grâce. Je ne sais pas si vous connaissez les gens, si vous connaissez l'école Jeunesse Lumière, mais c'est une école, en fait, c'est de prière, d'évangélisation. Donc, on vit vraiment la prière de manière, enfin, tous les jours avec différents modes de prier, différentes manières de prier, tous les jours, avec une vie de communauté, des jeunes du monde entier, avec une formation et les temps de mission. On va soit dans les écoles, dans la rue, on peut aller dans les prisons, dans des centres pour personnes handicapées, enfin, pour parler de Jésus. Et donc, ça a été vraiment. Vraiment très fort. Et puis, moi, je ne savais toujours pas quoi faire, en fait, de ma vie. Puis, pendant l'année dans cette école, on a beaucoup de très bons cours et on a eu vraiment un très beau cours sur le mariage. Et je trouvais ça mais tellement, tellement beau, la vocation du mariage. Un homme, une femme, c'est tellement beau. Et du coup, moi, je ne savais plus qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était pour moi. J'étais devant Dieu, je disais, bon, bah voilà, moi je veux te suivre, mais en fait, je ne sais pas ce qui est juste pour moi. Tout est beau, et voilà, je suis là, quoi. Et j'en savais rien. Et j'ai continué à cheminer, et par l'Esprit Saint, enfin, par des différents chemins qui sont un peu difficiles et même pour moi à comprendre. Finalement, j'ai fait une deuxième année dans cette école, donc au service de l'école quand on fait une deuxième année. Mais dans une école qu'on a, donc l'école elle est en France, mais il y a différentes écoles dans d'autres pays. Et donc j'ai été envoyée dans l'école d'Italie, sans parler la langue, sans connaître les personnes. Et donc ça a été une grande expérience de partir, d'abandon. Et j'ai pas eu le temps d'apprendre la langue. J'ai vraiment reçu, en fait, comme un don de l'Esprit Saint, la langue de l'italien. J'étais de toute façon incapable d'apprendre, enfin, la langue. Et j'étais une année au service des jeunes. Donc c'est une petite école, il y a une dizaine de jeunes. Et on a vécu vraiment des choses très fortes. Et puis, en étant au service d'autres jeunes, donc au service de... C'est être là pour leur permettre de faire eux aussi l'expérience de Dieu, ce que j'avais fait là, donc en tant que première année, et aussi vraiment une année où, du coup, voilà, où on ne peut pas se cacher, on doit vraiment se donner aux autres. Et ça a été une année difficile pour moi, vraiment, mais très, très riche et sans cesse avec beaucoup de rencontres dans les missions, dans tout ce qu'on pouvait vivre. Notamment, on a fait une mission en Pologne. On a été dans les prisons et pour moi, ça a été un moment très très fort de témoigner devant des hommes. C'était une prison d'hommes et où, voilà, c'est juste un exemple, mais dans tout mon chemin, j'ai une très grande blessure liée aux hommes, à la paternité, à mon papa. Et en fait, de se retrouver en prison Et là, c'était comme si je devais parler et leur donner tout l'amour que j'ai jamais pu donner à mon père à ce moment-là. Et c'était très fort parce que c'est des moments, c'est seul l'Esprit Saint, seul Seigneur qui agit et qui vient toucher les cœurs. Et moi qui me rendais capable de parler et eux de recevoir et qui étaient vraiment aussi émus. Enfin, c'était vraiment des moments forts que le Seigneur y permet de vivre. Et moi, j'avais petit à petit, pendant ces 2 années, ça a vraiment grandi en moi l'urgence d'évangéliser, l'urgence de parler, de donner Jésus aux jeunes. Et moi, je vois tellement de jeunes qui souffrent, qui se tuent, qui est à petit feu, et c'est tellement terrible. Et du coup, j'avais vraiment ça qui m'habitait de plus en plus. Je me disais, mais bah, voilà, moi, je veux vraiment te donner ma vie, Seigneur, et la donner dans la mission, la donner pour les jeunes, pour eux. Et sauf que je n'avais pas de réponse, je ne savais pas comment. Et je rencontrais des communautés, je cherchais, je posais des questions, mais en fait, c'était toujours extérieur à moi. C'était pas. C'est comme si on nous propose un habit et en fait, on voit bien que ce n'est pas notre forme, ce n'est pas notre taille. Donc c'est beau, mais ce n'est pas pour nous, quoi. Et moi, j'étais là et je ne savais pas ce qui était juste. Et avec cette soif vraiment d'aimer et de pouvoir donner ce que j'étais. Et j'ai fait donc ça m'a conduit à faire une retraite cet été. Avec donc je me suis dit je vais prendre vraiment un vrai temps, donc seulement pour réfléchir à ça. Donc pendant un mois, celles que je connaissais qui faisaient des retraites d'un mois, c'était les Sœurs de Bethléem, qui est une communauté de vie contemplative. Et j'ai fait ce choix d'aller chez elles. Et puis, en fait, j'avais depuis quelques temps, j'avais assez peur, en fait, d'être appelée à une vie de contemplative, à une vie, ce qu'on appelle seulement de prière, où il n'y a pas d'acte extérieur, enfin, c'est juste d'être dans un monastère. Et j'avais vraiment de plus en plus peur de ça, de dire, mais surtout pas pour moi, enfin, tu me connais, Seigneur, avec mon tempérament, c'est pas possible, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fait le choix de faire cette retraite. Et plus les jours arrivaient avant que j'aille dans ce lieu, c'est une communauté que je connaissais très peu, et plus en fait je sentais en moi que c'était ça que le Seigneur il me donnait. Il me disait, ça c'est pour toi, c'est ta communauté, c'est ta famille. Et moi j'ai dit non, c'est pas possible. Alors je faisais des cauchemars, je me réveillais à nuit, j'ai dit non, c'est pas ça, c'est juste, c'est des cauchemars, c'est pas vrai, c'est pas possible pour moi, comme je suis. Et du coup j'avais vraiment peur. Mais j'ai quand même fait le choix d'aller vers cette retraite. Comme ça sera fini, je serai réglée avec cette question. C'est sûr, c'est pas ça, de toute façon, c'est juste des imaginations. Et donc, j'ai fait le choix d'y aller. Et donc, et là, c'était en fait, j'ai pu parler, j'étais accompagnée par une sœur, donc très jeune. Et j'ai pu vraiment lui dire juste que c'était pas possible, que je me sentais oppressée dans cette communauté, que j'étais là mais que j'avais pas envie. Et elle m'a permis d'aller en vérité, me dire mais mets-toi en vérité devant ton Dieu. Tu dois crier au Seigneur, tu dois vraiment lui dire tout ce que tu penses, tu dois être vrai jusqu'au bout. Et comme c'était ma quête d'être vrai depuis le début, d'être libre, je disais mais oui, mais alors si je veux être vrai, moi je me sens pas libre dans un choix comme ça. Si c'est comme, voilà, je comprends, le Seigneur me dit, c'est la première fois que je comprends ce que le Seigneur veut, il veut que je rentre là, et moi j'en suis incapable, je ne le veux pas. Donc où est ma liberté si je ne vois pas comment je peux être libre de faire un choix si c'est juste ça en fait mon choix. C'est dans d'autres choses, je ne me sentirais pas épanouie. Je le sentais fort et je disais, mais c'est, enfin, comment? Et du coup c'était vraiment un grand combat, une lutte, mais avec les armes de la foi, avec la parole de Dieu, en fait. Moi, ça fait un moment, ça fait voilà, longtemps que j'ai beaucoup de mal à prier. Donc, de toute façon, dans le silence, je peux pas avoir d'aide, de réponse. J'ai du mal à lire la parole, j'ai du mal. Mais en fait, là, c'est toutes les. En fait, c'est la parole de Dieu qui est remontée dans mon cœur. C'est toutes les fois où, de manière. Quand on ne se rend pas compte, quand on. Je sais pas, machinalement, on peut ouvrir notre Bible et lire quelque chose, et puis, bon, de toute façon, j'arrive pas à prier, ou quand on écoute la parole à la messe. Et ben, en fait, ça travaille notre cœur. on ne s'en rend pas compte, mais c'est là, et aussi tous les temps de louange où on apprend à remercier, ça travaille notre cœur. Et là, c'est comme si ça rejaillissait, moi j'arrivais pas à prier, mais ça rejaillissait, la parole de Dieu jaillissait et me donnait des réponses sur toutes mes questions, sur la liberté, sur la vérité, sur la quête de moi-même, de Dieu. Et en fait, donc j'ai eu toutes plein de réponses qui venaient que par la parole de Dieu. Je ne savais pas d'où ça venait, mais ça venait en tout cas. Et puis, une de mes questions que je vous ai partagées, c'était vraiment de dire, mais moi, voilà, c'est pas possible de laisser tous ces jeunes qui se perdent, tous ces jeunes qui se tuent, quoi. Enfin, c'est insupportable. Mais du coup, Seigneur, tu ne peux pas me demander de rentrer dans une vie de... Donc, parce que c'est une vie contemplative, donc c'est dans un ermitage, c'est de silence, de solitude. Mais tu ne peux pas me demander d'être là-dedans et que je continue, qu'il y ait tous ces jeunes qui continuent à se tuer, enfin, à souffrir. Je me prenais peut-être un peu pour Superwoman, mais ce n'est pas possible, quoi. Et en fait, j'ai eu cette... ça dans mon cœur, où j'ai senti vraiment, le Seigneur il me disait, mais voilà, à toi, il t'est demandé, à d'autres, il est demandé d'aller parler, d'aller consoler, à toi, il t'est demandé de te donner, et c'est tout. Et rien de plus. Et donc, ça a été vraiment des paroles qui ont été fortes, où j'ai tout simplement, c'est devenu une telle évidence que c'était seulement ça, que j'avais... que ce que je portais en moi, de plus profond, c'est une vie comme ça, une vie donnée, une vie gratuite, et ce qui est très mystérieux, parce que mes rêves les plus fous n'avaient jamais été ça, mais pourtant, à partir du moment où j'ai dit oui, j'ai senti vraiment une grande joie qui était en moi, une grande joie qui naissait, et puis j'ai vu à quel point, en fait, toute ma vie était reliée par un fil. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que le Seigneur, il écrit droit sur nos lignes courbes. Et qu'en fait, vraiment, tout ce que j'avais pu vivre, tout ce qu'il avait permis que je vive, ça avait du sens pour ça, en fait. Pour que je puisse dire oui à ce moment-là, pour que je puisse rentrer dans cette vocation. Et c'est un très grand... c'est un mystère, enfin, encore pour moi. Et voilà, du coup, j'ai pleinement dit oui à rentrer dans une vie contemplative. Et après, moi, j'ai ressenti que, enfin, le Seigneur m'a demandé de le dire juste avant de rentrer. Donc, c'est mystérieux. Et après, en fait, donc d'ici à la fin du mois, là, je rentre chez les sœurs. Donc, c'est l'appel des sœurs de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint Bruno. C'est un long mot. Et c'est vraiment un appel à vivre comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez les Chartreux, mais enfin, c'est de la famille de Saint-Bruno, enfin, de la famille des Chartreux un peu proche. Et donc, c'est vraiment un appel à vivre seul, à vivre en ermitage, dans une vie donnée, de solitude. Le travail, c'est un travail d'art, un travail pour révéler la beauté du Christ. Donc, c'est les icônes, la peinture sur tissu, la sculpture, des choses comme ça, la céramique. Et a une vocation particulière à prier pour l'unité des chrétiens, mais aussi l'unité entre tout homme, l'unité. Et après, il y a quand même une dimension, c'est une vie seule, mais c'est une vie en communauté aussi. Donc il y a la dimension, il y a la communauté qui est là, et c'est très important, même s'il y a peu de temps en commun avec d'autres. Et donc, enfin voilà, très rapidement, en fait... cette communauté, et vraiment pour dire que moi je me suis sentie, et je m'en sens toujours tellement incapable de vivre ça, totalement incapable, et quand j'ai rencontré la sœur prieure du monastère, enfin de la communauté, et que je lui ai partagé, je lui ai dit, mais moi, ce que je ressens, ce que je à rentrer dans cette communauté, mais moi je m'en sens incapable, je suis pas capable de le faire, alors je veux bien faire confiance à Dieu, mais j'en sais rien jusqu'où je pourrais aller ni quoi vivre, qu'est-ce que je pourrais vivre, et elle m'a répondu, t'as les dispositions qu'il faut pour rentrer, c'est comme ça qu'il faut que tu rentres, et c'est comme ça que tu seras, même au bout de 50 ans de vie religieuse, dans cette incapacité en fait à vivre, à pouvoir savoir je suis incapable de vivre ça, et c'est seulement le Seigneur qui peut donner la grâce jour après jour. Donc c'est comme une vie un peu de combat, un peu de difficile, mais tellement belle, parce que c'est là, je sais que c'est là que je peux rencontrer vraiment le Seigneur.
Par rapport à la communauté, comment se passent les journées, tout ça.
Ben, en fait, il y a deux temps de prière en commun avec l'ensemble des sœurs. Moi, le monastère où je rentre vers Genève, en fait, ça s'appelle les Monts-Voirons, et où on est à peu près 35 là-bas. Donc il y a deux temps de prière en commun, le matin et le soir, enfin les laudes et les vêpres. Donc des temps qui sont assez longs, parce que c'est une longue liturgie, qui est avec beaucoup d'hymnes qu'on trouve dans les églises d'Orient, les églises orthodoxes, enfin les épiscopes. C'est très très riche, très poétique comme liturgie. Donc c'est des longs offices, deux par jour en commun avec la messe. Et le reste du temps, en fait, t'es dans ta cellule, donc on appelle ça cellule, dans ton ermitage. Et donc c'est à peu près vers 7 h, on va dire, il y a l'office qui dure 2 h, 2 h 30 avec la messe. Et après, il y a le matin un temps d'étude, ça dépend des personnes, mais en général, c'est un temps d'étude. Après, il y a le repas qui est en solitude. On a un portoir, de la nourriture, et c'est ce qu'on pour la journée. Donc, il y a le repas en solitude. Après, il y a le temps de travail, à peu près 4 heures de travail, toujours dans l'ermitage, en fait, il y a un espace de travail. Et après, il y a les vêpres. Et après, ils rentrent dans ce qu'on appelle le grand silence. Ce qui est drôle, parce qu'en soi, c'est déjà en silence. C'est le grand silence. Et parce que c'est le moment où, en fait, ils disent que tu dois consacrer 4 heures à peu près de vie, enfin de 4 heures à Dieu. Vraiment de prière, d'adoration. Si c'est possible que tu aies Jésus dans ton ermitage. Ça dépend un peu des parcours de chacun, des sœurs et tout. Ou mais en tout cas, des temps, 4 heures de méditation, de prière. Et ça peut être soit après donc les vêpres, donc vers 7 h, de 7 h à 10 h, enfin j'en sais rien, plus ou moins. Et tu te couches et tu te lèves le matin à vers 6 h 30 pour aller faire l'office. Soit en fait tu les fais tôt le matin, il y a beaucoup de sœurs qui se couchent vers 7 h 30 et qui vont se lever à 3 h du matin. Et qui vont faire. Ça dépend en fait des rythmes, il faut respecter son rythme. Moi j'en sais rien quoi. Et donc ça c'est en général la semaine, et après... Le samedi, il y a un temps plus de communauté. Le samedi, un repas en commun. Et puis un temps de pardon, enfin un temps de chapitre. Et une veillée, le samedi soir, un temps fraternel. Et le dimanche, ils appellent un passiment, c'est une balade de 4 heures en général. Tout le monde part en montagne, avec le pique-nique, ensemble. Voilà. Et le lundi, c'est de désert. Ce qui est pareil, c'est rire, parce qu'en soi, c'est... le lundi, il n'y a pas de travail, quoi. Il n'y a rien. Il y a juste la messe. Voilà.
Les cellules, elles sont comment? Enfin, les ermitages, je ne sais pas comment t'as
posé. Ouais, attends, je crois que j'ai une image. Après, le site internet est très bien, il explique bien. C'est très petit, donc. Mais en fait, là, il y a un monastère. Donc, on voit que c'est un ensemble de cellules d'ermitage et liées ensemble. Donc, c'est vraiment l'idée de la communauté, seule en communauté. Et en fait, l'ermitage, c'est par demi-niveaux. Donc, il y a un espace de travail. Après, tu as un demi-niveau, tu as un l'oratoire, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et après, tu as un demi-niveau et tu as l'alcôve du lit. Le lit, t'as une table pour manger et une table pour étudier.
Donc c'est un duplex.
Et après, des douches.
Duplex.
Non.
C'est sur deux étages, je pense.
Mais c'est sur demi-étage, en fait. C'est petit et un petit jardin. Ah. Avec les plantes médicinales, les plantes.
C'est super.
Oui, à l'extérieur, enfin, il y a par le cloître ou sinon à l'extérieur. Ah oui. Je crois, je sais pas. Le dimanche, c'est sûr. Non, mais oui, après, oui, tu peux, mais.
Moi, je pense que tu pourrais te balader toute seule comme ça dans la montagne, quoi.
Je pense
faire
que.
Plaisir, quand même, c'est pas...
Moi, je pense que ça, en fait, ça dépend beaucoup de chacun. Il y a vraiment. C'est vraiment à l'écoute de chaque personne. Et je pense que si tu as besoin, tu vois ta prière et. Tu travailles pas, enfin, tu vas faire autre chose. C'est à l'écoute de chacun. Une question.
Donc, à la fin
Alors en fait, non. Enfin, en tant que, c'est pas par exemple, c'est pas un lieu où il y a des retraites organisées, où il y a avoir des. Quand on parle de retraite, non, quand on entend parler de monastère, du coup, on a des sessions, des personnes qui viennent nous parler. Il n'y a pas ça. Il y a juste un mois, le mois d'août, en général, qui est un mois de retraite qui est pour tous, hein, et qui est où on vit en fait tout le temps de la Bible, donc de la Trinité, hein, enfin, du cœur de la Trinité incréée à la révélation progressive de Dieu, la création, Abraham, Moïse, la vie de Jésus, jusqu'à l'Apocalypse en un mois. Ça, c'est la retraite. Après, le reste du temps, il y a l'accueil de personnes qui veulent venir en ermitage, mais du coup qui savent qu'ils vont pas avoir d'enseignement, qui vont être seuls. Enfin, il y aura peut-être une sœur qui va les accompagner, mais c'est tout. Et voilà. Et après, il y a une dimension importante de l'accueil, mais de l'accueil des proches et des familles, des personnes, parce qu'ils se sont rendus compte que ça questionnait beaucoup les familles et les gens, enfin, dans le monde. Et qu'ils ont développé vraiment cette sensibilité à accueillir les familles, à accueillir leurs questions, à ce qu'elles puissent être là, à venir aussi les enfants, les grands-parents, ou voilà, qu'ils puissent venir voir et être restés un temps. Enfin, donc il y a une émotion d'accueil des proches, en fait. Mais pas forcément. Enfin, voilà.
Il y a une amie
Ouais, c'est comme la vie des Chartreux. Mais pareil, il y a une image dans le petit livret. En fait, c'est blanc. C'est blanc parce que c'est comme dans l'Apocalypse. En fait, dans l'Apocalypse, ils sont habillés en blanc parce qu'ils sont dans l'attente, dans la parousie, dans l'attente de la venue du Christ. Et les sœurs, en fait, elles ont vraiment cette vocation à veiller et à être dans l'attente pour le monde de la venue du Christ. Donc, c'est un habit blanc avec des grandes poches, enfin, des grands trucs un peu bizarres.
C'est pour travailler ou c'est pourquoi il y a des grandes poches?
Je sais pas ce que je vais
jeter.
Je demanderai aussi, c'est la vie de Saint Chartreux.
Que ce soit fonctionnel.
Mais en fait, je sais pas, c'est même pas des poches, en fait, parce que toi, c'est juste des lanières comme
Ah
ça.
ouais, c'est ça.
Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Et après, il y a un voile, quoi, avec une guimpe. Ouais. Bah, du coup, dans le monastère, oui. Oui. Pas dans l'ermitage, mais là. Je l'ai fait dans un pas où je vais rentrer, mais je l'ai. Mais donc. Enfin.
Qu'est-ce qui t'a décidé d'aller là-bas?
Je sais pas. Si, en fait, j'avais le choix. On m'a demandé de choisir quand je voulais rentrer, où je voulais rentrer. Enfin, d'en parler, quoi. Et je savais pas. Je connaissais pas. En fait, il y a beaucoup de monastères en France, finalement, et même à l'étranger. Et je savais pas où aller, sauf que mon seul critère, c'est que j'aime les montagnes. C'est tout. Parce que je connaissais rien. Et puis, dans mon cœur, je chantais celui des Monts Voirons. Enfin, donc, j'en sentais un que je connaissais de nom. C'est tout. Mais j'ai pas. Et quand on m'a demandé, j'ai pas osé le dire. Parce que c'est trop bête, mais parce que la personne qui m'accompagnait, la sœur qui m'accompagnait pendant tout le mois, en fait, elle venait de ce monastère. Et je voulais pas que ce soit dû à un lien affectif avec une personne que je choisisse un monastère. Parce que je m'entends très bien avec elle. Et du coup, j'ai rien dit. Et la prière générale, c'est elle qui m'a dit, bah, moi, je pense pour toi à ce monastère-là. Elle est au Mont Voiron. Donc, je dis, oui, ça va. Je veux bien. Mais là, on voit vraiment comment il est le Seigneur, parce que. Après, la prière est très importante parce qu'en fait, dans ces monastères, l'accompagnement spirituel, c'est la prière qui accompagne tout monastère. Donc, c'est très important. Et là, pendant Pendant le mois, il y avait des sœurs, enfin, un peu de partout du monde entier, de tous les monastères, et plein de prieurs. Parce que c'est un mois où aussi, donc il y a plein de jeunes, on était une 40, 50 jeunes à faire une retraite. Puis pendant le reste du temps, tu as plein de sœurs qui parlent, qui aussi, et qui sont en train de voir un peu qui se retrouvent en fait, des quatre coins du monde. Et donc il y avait plein, plein de prieurs. Et moi, je savais dans quel lieu j'allais, du coup, mais je ne savais pas quelle était la prieure. Et dans ma tête, j'étais persuadée que c'était une sœur. Et je me disais, mais c'est dommage, parce que quand même, il y en a une, elle a l'air plus sympa. C'est trop bête, enfin, c'est notre humanité, quoi. C'est, on est comme ça. Et je me disais, mais celle-là, elle a l'air vraiment bien. Et du coup, le dernier jour, je devais rencontrer ma prière, ma future prière. Et donc, il y a une qui frappe à la porte, et c'était donc celle que j'étais persuadée que c'était elle, qui frappe à ma porte et qui me dit, oui, alors je viens pour t'annoncer que ta prière va venir. Et donc, en fait, c'était pas elle, mais elle venait juste m'annoncer que ma prière, et c'était celle que je, dans mon cœur, je désirais. Et c'est une fille spirituelle de Daniel Ange, en fait. J'ai découvert. Daniel Ange, le fondateur de l'école, je me souviens.
Ta mère ou...
Comment?
Ta mère.
Ouais. T'as une question? Où je vais, il y en a à peu près 35. Mais dans le monde, donc c'est une communauté qui a 60 ans à peu près, et elles sont 750 environ. À peu près, ouais. De plein de nationalités. Et l'âge, ben là où je vais, c'est jeune. Mais après, il y a des sœurs de tout âge, en fait, puisqu'avec 60 ans de... Ouais. Non, pas, au bout d'un an. Ouais, en novembre. Je sais pas si je peux. Dedans. Mais après, il y a tout un temps de toute façon dans une communauté, et là, donc il y a un an de on est proche, je suis proche de la communauté, on prend l'habit au bout d'un an. Les premiers vœux temporaires, donc les premiers vœux qui se font, c'est au bout de 6 ans minimum, et les vœux définitifs, au bout de donc vraiment enfin, définitif, c'est au bout de 10 ans minimum, donc il y a beaucoup de temps. Et une grande souplesse et liberté à, si c'est pas, enfin, à pouvoir repartir si c'est pas ça, si c'est pas juste, et prendre le temps, même s'il faut 12 ans, 15 ans avant de faire des vœux définitifs, quoi. Et que ça soit vraiment solide.
Et au niveau d'accompagnement, vous avez un prêtre fixe, comment ça se passe? Qui c'est qui vient vous faire l'Eucharistie?
Ils essayent qu'il y ait un prêtre qui soit aumônier,
ouais.
Mais en fait, tous les monastères ne réussissent pas. Ouais, donc sinon c'est des prêtres qui viennent en retraite ou des prêtres qui sont proches dans la vallée ou... mais ça dépend des monastères et des monastères qui ne réussissent pas à avoir un prêtre tout le temps. Non, je ne sais pas, parce qu'il y en avait un jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais parce que c'est en altitude, c'est une personne âgée, il a dû descendre, enfin, il a dû aller dans un autre monastère. Donc je ne sais pas tout de suite maintenant. Je sais pas si il y a d'autres questions. Oui. Si la personne qui vient connaît une sœur, si elle, il vient pour parler avec cette sœur, donc c'est normal que si. Après, si quelqu'un vient qui vient dans un monastère pour faire une retraite, qui ne connaît personne, il y aura forcément une sœur qui va être là, qui va être disponible pour l'accompagner. Et puis après, il y a des sœurs à l'accueil aussi qui sont là. En fait, il y a deux types de vocations. Enfin, deux types, ouais. Il y a des sœurs qui sont vraiment de solitude, qui ont vraiment une vie seulement d'ermitage, donc aucun contact avec l'extérieur. Et il y a les sœurs de communauté qui, elles, vont aussi être à l'accueil ou être plus dans les choses plus... si matériel ou des choses, ça dépend. Et ça peut changer. Enfin, c'est... Ben, non, ça, tout le monde peut faire la cuisine.
J'ai une question. Est-ce que tu peux rentrer dans ta famille ou...
Normalement, non. Sauf s'il y a un élément. Enfin...
Un décès.
Ben, oui, ça dépend de...
Une maladie.
ça dépend, en fait, ça dépend de moi, du lien avec la personne, de l'affection, enfin, et faut être ma prière, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est ça, le Seigneur peut donner la force. Dans 3 semaines, à la fin du mois. Ah, la date précise, je crois que c'est vers le 25, 26. En fait, je suis très heureuse parce que mes parents m'accompagnent, tous les deux. Ils ont posé des jours de congé pour m'accompagner, ce qui est tout un chemin aussi que mes parents m'ont fait. Mais en fait, mes parents, depuis 2 ans, savaient que je cheminais, que je cherchais. Donc, ça a pas mal préparé, en fait. Mon père est loin de l'église. Donc, il avait une réaction violente il y a 2 ans. Et petit à petit, il a cheminé. Et ma mère, elle est vraiment dans l'église. Et donc, elle s'en était réjouie, en fait. Et là, quand je l'ai vraiment annoncé, et ben, mon père, il a été très heureux. Parce qu'il a dit, ça y est, en fait, il y a quelque chose, voilà, c'est un peu matériel, mais ça y est, tu fais quelque chose de ta vie, ça y est, enfin, t'es fixé, quoi, enfin, c'est quelque part, c'est ça, quoi, t'es fixé, il y a quelque chose pour toi qui est solide et tu vas faire quelque chose. Et donc, tout de suite, voilà, il m'a dit, je pose mes jours de congé, voilà, ce que mon père n'a jamais fait pour moi. Et ma mère, elle, ça a été. C'est plus douloureux parce que c'est comme donner, enfin, faire le deuil, en fait, de tout ce que, enfin, il y a plusieurs personnes dans ma famille qui sont comme ça, qui disent, mais tout ce qu'on ne pourra plus faire ensemble. Et donc, enfin, moi, je peux rien faire, c'est seulement, parce que moi-même, pour moi, c'est difficile, donc c'est seule la prière et l'Esprit Saint qui peut consoler et qui peut éclairer, quoi.
Présentation de Jésus.
Par rapport à ta passion, comment tu le vis?
Ben en fait, je suis émerveillée de voir que en fait, moi j'ai fait des études d'art et je cherchais en fait la beauté et la vérité, enfin la beauté. Et j'ai vu des choses tellement laides, enfin, et tellement aussi des choses déformées, et qui m'a vraiment fallu un chemin de foi pour pouvoir purifier mon regard. Et finalement, et là, je suis émerveillée de voir que le Seigneur, il avait pensé à une communauté qui me permet de vivre la beauté, qui est pour moi une dimension importante. Donc, de pouvoir créer. Et par exemple, j'ai commencé à suivre des cours d'icônes cette année, pendant que j'étais en Italie, à Florence. Et, en fait, et là, ben, la communauté, elle fait des icônes. Donc, je dis, c'est fou, quoi. Enfin, voilà, j'ai trouvé mon. C'est un épanouissement aussi, enfin, pour moi, de pouvoir continuer à créer. Oui, alors bah, dans le monastère où je vais, en fait, c'est la poterie. Et à chaque monastère a plus des spécialités. Et moi, c'est la poterie. Donc je vais sans doute apprendre à tourner et à peindre.
Elles sont trop belles, les poteries.
Mais sur le site internet, en tout cas, c'est vraiment, y a vraiment on voit vraiment leur artisanat, puis aussi des explications. Enfin, moi, je suis très, très incomplet, très comme ça, ce que je vous dis. Mais si vous cherchez un peu plus, vous trouverez sur bethlehem.org. Vous verrez.
Merci beaucoup, Anaïs.
Merci à vous.